Frères et sœurs, c'est le dimanche des révélations. Alors regardez bien devant vous. C'est pas très... Regardez-moi. Figurez-vous que devant vous, vous avez un super-héros. Pas depuis longtemps. Depuis quelques jours, j'ai découvert que j'avais un super-pouvoir. Et mon super-pouvoir, il se révèle tous les matins. Tous les matins, mon radio réveil s'allume et j'entends « Bonjour, il est 6 heures du matin et voici les titres du journal. » Et mon super pouvoir, c'est de savoir à l'avance, juste au moment où je me réveille, donc on n'est pas très frais quand on se réveille, mais je sais déjà quel est le premier titre du journal. Et ça fait 8 jours que ça dure. Alors je ne sais pas si mon super pouvoir il va continuer comme ça, mais voilà. En effet, quand le journal commence, c'est toujours la même chose. Premier titre, le coronavirus. Bon, alors je vois que je suis peut-être pas tout seul être super-héros, mais que vous aussi, vous avez le même pouvoir que moi. Et oui, depuis plusieurs jours, cette épidémie, traitée sous tous les angles, traitée avec tous les intervenants possibles, à tous les coins de la planète et de l'hexagone, en vérité, donc, ce pouvoir de divination, nous le partageons parce que cette épidémie, elle nous affecte. Alors, comment réagir à cette épidémie et à ce matraquage médiatique, il faut le dire aussi. Autrement que par un légitime ras-le-bol ou par une angoisse infondée qui, paraît-il, je n'ai pas été vérifié, mais pousse certains à vider les rayons des supermarchés. Devant cela, peut-être faut-il traquer ensemble les bons et les mauvais réflexes, les bonnes et les mauvaises attitudes, mais je ne vais pas faire de la morale comme ça, mais les bonnes et les mauvaises attitudes conformes à l'Évangile et à notre foi chrétienne. Le premier danger que je vois, c'est celui de l'égoïsme, du chacun pour soi. Or, si on peut comprendre cela comme un premier réflexe de survie, on en voit bien vite les limites. Je suis sûr que ceux qui ont été confinés pendant 15 jours, même au bord de la mer, dans un centre de vacances luxueux, étaient très contents de rentrer chez eux pour reprendre une vie à peu près normale. L'homme n'est pas fait pour être enfermé. Je lisais encore ce matin que les gens de la ville d'Auray, dans le Morbihan, étaient contents au bout de quelques jours, eux aussi, de pouvoir commencer à ressortir et à aller tout simplement prendre un café dans le bar du coin. Oui, l'homme n'est pas fait pour être enfermé, il a besoin de relations et donc d'une vie sociale avec d'inévitables règles. À Abraham, Dieu dit qu'il fait de nous une grande nation, réunissant toutes les familles de la terre dans des relations nouvelles, non plus réglées par la parenté, par les ancêtres, mais par ce lien unique à Dieu, Père commun, qui fait de nous des sœurs et des frères, qui fait de nous des fils et des filles bien-aimés du Père à l'image du Fils. Comme lors de son baptême, à la transfiguration, qui est déjà, rappelons-le, une annonce de la résurrection. À la transfiguration donc, la voix venue du ciel remet en évidence la relation paternelle particulière entre Dieu et son Fils. La transfiguration, c'est une épiphanie, une révélation pour ses trois disciples présents, et donc, finalement, pour nous tous aussi. Une révélation de la vraie nature de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Mais nous n'y assistons pas comme à un spectacle. On est ébloui par la représentation, on applaudit et au revoir. Non. Remarquez ce qui se passe avec Pierre, un des trois disciples présents. Il veut associer le patriarche Moïse et le prophète Élie, qui sont présents dans la vision. Mais à peine a-t-il dit cela, et à peine la révélation se termine-t-elle, que Jésus, nous dit l'évangéliste, est seul, seul avec ses trois disciples. Ce qui vient de se passer, c'est donc pour eux pour les trois disciples, c'est pour qu'ils en soient les témoins maintenant, aujourd'hui, et pas avec les témoins de l'histoire biblique, aussi prestigieux soient-ils que Moïse et Élie. Cette révélation, elle est confiée aux trois disciples, pour qu'ils en soient donc les témoins, et Jésus leur dit, après la résurrection, quand vous aurez compris ce qui se passe. Mais que se passe-t-il alors, si nous poursuivons le récit ? Eh bien, c'est le deuxième écueil de notre épidémie. Il se passe la peur. Ils furent saisis d'une grande crainte, nous dit l'évangéliste. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient à ce moment-là face contre terre. Ils ont eu peur et ils se sont mis la face contre la terre. Ils n'osaient pas regarder la vérité en face. Ils n'osaient pas regarder Dieu dans sa toute-puissance d'amour. Ils n'osaient pas regarder Dieu dans sa lumière éclatante d'amour. Alors c'est Jésus qui fait le premier pas. Jésus qui s'approche d'eux, qui les touche, nous dit l'évangéliste, et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Lui, Jésus, le béni du Père, vient les bénir. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est à nous que Jésus dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Avec le Christ, nous ne pouvons plus avoir peur. Si nous l'avons entendu, si nous l'avons vu, Jésus nous relève et nous délivre. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, chante le psalmiste. Le Christ s'est manifesté, il a détruit la mort et fait resplendir la vie, nous rappelle saint Paul. Ainsi, nous sommes envoyés en mission pour témoigner de celui qui s'est révélé à nous. Abraham est devenu Abraham en quittant son pays, en quittant sa parenté pour guider le peuple de Dieu. Mais croyez-vous qu'il n'a pas eu peur lui aussi à un moment de ce qui pourrait être vu comme un grand saut dans l'inconnu et dans le vide ? Sûrement que si, mais il a entendu la bénédiction de Dieu. « Je te bénirai, tu seras béni. » Si vous regardez le petit passage, ce terme, cette expression est répétée 5 fois dans le même verset. Aujourd'hui, c'est peut-être l'invitation que je voudrais vous faire entendre à nouveau. Vous reconnaître béni de Dieu et bénir Dieu. Lors de la transfiguration, la voix venue du ciel disait « Tu es mon Fils bien-aimé ». C'était une bénédiction. Et cette bénédiction a soutenu Jésus à travers tous les moments de sa vie terrestre, moments de louange, de fraternité, de bonheur, mais aussi moments d'accusation, de condamnation, de souffrance, tout ce que nous allons revivre au cours de la semaine sainte. Comme Abraham, Jésus n'a jamais perdu son intime conviction d'être le béni. Je dis cela car le sentiment d'être béni n'est sans doute pas celui que nous entretenons le plus facilement vis-à-vis de nous-mêmes. Certains peuvent même se sentir maudits, victimes d'un monde qu'on ne peut pas changer. Nous pouvons dire « Regarde ce qui se passe autour de nous. Regarde cette épidémie, regarde les réfugiés, les malades, regarde la pauvreté. Où est la bénédiction ?» Finalement, ne nous est-il pas plus facile de croire que nous sommes maudits plutôt que bénis ? Malgré tout, je voudrais vous le redire, en tant que fils, fille bien-aimée du Père, fils et fille bien-aimée de Dieu, tu es béni. Voilà la vérité. Les malédictions, aussi bruyantes, tapageuses et assourdissantes soient-elles, ne disent pas la vérité. Ce sont des mensonges, faciles à croire, mais des mensonges quand même. Accueillir cette bénédiction de Dieu demande un effort dans la prière et l'attention à l'autre. Frères et sœurs, cette semaine, dans les jours qui viennent, essayons, chaque jour, au terme de la journée, de nous demander comment le Seigneur m'a béni. Quelle grâce m'a-t-il fait aujourd'hui ? Je suis sûr, je suis sûr qu'il y en aura une et même plusieurs. Bénissons alors le Seigneur de ses bénédictions, ses signes discrets mais réels de sa présence lumineuse dans nos vies. Car comme l'écrit encore saint Paul, Dieu nous a sauvés, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Amen.